Bonjour et bienvenue à Repensons la paix et la sécurité, le podcast de Stop Feeling War, une association qui s'intéresse à la sécurité, au commerce des armes et à la paix. Ce podcast est une série d'interviews avec différents activistes, chercheurs et spécialistes sur des sujets concernant les armes et notre sécurité. Oli et Alice, qui travaillent pour Stop Feeling War, discutent avec ces experts et remettent en question la militarisation avec l'aide de nos invités. Dans cet épisode, nous interviewons Claude Sarfati, économiste français, sur le thème des dépenses militaires et l'économie de l'industrie de l'armement. Merci d'être là. Nous commençons le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et parler un peu de votre parcours?
Oui, j'ai été toute ma carrière enseignant-chercheur, professeur à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'avais été auparavant professeur d'économie en lycée. Et mes thèmes de recherche sont essentiellement portés en économie, sur l'économie de l'innovation, la mondialisation. Et pour beaucoup de raisons, je me suis intéressé très tôt à la question de l'industrie d'armement. J'ai un peu élargi après aux enjeux géoéconomiques, mais au départ, ça a été un peu focalisé sur l'industrie d'armement précisément et ses relations avec le système industriel civil des pays développés principalement. Voilà, et par ailleurs, je suis engagé dans la vie associative puisque je suis membre du conseil scientifique d'attaque.
D'accord, merci beaucoup. On voulait vous parler aujourd'hui des dépenses militaires en France et ailleurs. Selon vous, pourquoi les dépenses militaires dans le monde et en France sont-elles constamment en hausse?
Je pense qu'on a vécu sur un mythe depuis les années 1990, un double mythe, même je dirais, celui des dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, c'est ce qui devait être produit par la disparition de l'empire du mal, comme l'appelait le président Reagan, c'est-à-dire l'URSS d'une part, et d'autre part, les dividendes de la paix devaient également être produits parce que les critiques appellent aujourd'hui la mondialisation néolibérale, puisque selon les économistes, les politistes partisans de cette mondialisation néolibérale, le capitalisme apporterait en même temps les bienfaits de l'économie de marché, la paix et la démocratie. C'est ce que, dans mes articles rédigés en anglais, j'ai appelé la mondialisation au format PDF pour Peace, Democracy and Free Markets. Cette rengaine que l'économie de marché apporte la paix est très ancienne, hein, elle remonte aux certains philosophes des Lumières, et elle a été en permanence démentie, et en tout cas, elle est démentie maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc, je n'ai jamais cru et j'ai beaucoup écrit contre les dividendes de la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, nous récoltons en quelque sorte les dividendes à la fois de la mondialisation néolibérale et des tensions géopolitiques qui se sont accélérées depuis maintenant la fin des années 2000. Je pourrais revenir sur cette question. Mais je pense malheureusement que le bref intermède de réduction des dépenses militaires de la fin des années 90 a été plutôt une exception dans une tendance générale qui est celle de la hausse des dépenses militaires. À la fin des années 2000, aux alentours de la fin des années 2000, il s'est produit d'énormes mutations économiques et géopolitiques. Précisément, les illusions que la mondialisation allait apporter, les bienfaits économiques et sociaux à l'ensemble de l'humanité se sont peu à peu évaporées, et se sont évaporées dans un événement majeur dont on n'a pas encore fini de mesurer les conséquences, qui est la crise économique de 2008. Ça, c'est pour les dimensions économiques du tournant des années 2000. Et puis, il y a eu aussi le tournant géopolitique, si vous voulez, ou géoéconomique, à savoir l'aventurisme de l'administration Bush, qui s'est lancé dans une guerre en Irak en 2003, et qui a en fait ouvert les vannes de la déstabilisation mondiale et surtout de son propre affaiblissement géopolitique et économique. Et puis, troisième mutation de la fin des années 2000, plus précisément même, on peut le dater du printemps 2011, ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'est-à-dire l'irruption des peuples sur la scène mondiale, commencée encore une fois en Tunisie, mais qui n'est pas terminé, on le voit aujourd'hui même précisément au Moyen-Orient. Et je crois que la réunion de ces grandes mutations économiques, géopolitiques et sociales a marqué un nouveau tournant par rapport même à ce que j'avais décrit de la situation des années 90 de la dite mondialisation néolibérale. Tout le monde sait aujourd'hui que les États sont indispensables et je n'ai pas besoin de revenir sur ces dimensions. Par contre, une dimension me paraît très importante et assez sous-estimée et pourtant très très importante pour comprendre l'augmentation des dépenses militaires, c'est que dans cette nouvelle conjoncture mondiale, celle qui s'est ouverte dans les années 2000, il y a eu ce que j'ai appelé un resserrement des liens entre économie et géopolitique. Avant les années 2000, on nous expliquait que l'économie c'était une chose, et puis par ailleurs il y avait des rivalités géopolitiques. Ce qu'on voit depuis la fin des années 2000 et qui est en train de s'exacerber et qui va encore s'exacerber, c'est que, comme au bon vieux temps, je devrais dire hélas, les grands pays, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, hein, les grands pays retrouvent la voie de la défense et la promotion de leurs intérêts économiques à l'aide de leur puissance militaro et diplomatique. Et il est évident que ce resserrement des relations entre économie et géopolitique, eh bien, c'est un facteur quasiment automatique d'augmentation des dépenses militaires. Quand vous commencez à brandir la menace de sanctions, de guerres commerciales, on sait que, par l'histoire, les guerres commerciales, les conflits commerciaux débouchent inéluctablement en conflits militaires. Donc, je pense que j'ai été un peu long sur la description des mutations de la fin des années 2000, mais je pense qu'on en voit aujourd'hui, malheureusement, en 2021, les aboutissants, c'est-à-dire cette extraordinaire conjonction des tensions économiques et géopolitiques entre les principaux pays de la planète, y compris, bien sûr, la France.
Merci. Maintenant, on va se retourner un peu en arrière. Pour comprendre les dépenses militaires, il faut être capable de les quantifier, ce qui est un souci dans plusieurs pays, dont la France. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les dépenses, ou comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée un peu d'une fourchette? Il y a des possibilités de connaître certaines sommes, mais d'avoir une estimation précise, ça semble très compliqué. Et même pour avoir une fourchette globale qui soit juste, c'est difficile. Et nous, on pense qu'il faut être capable de quantifier ça pour pouvoir ensuite en parler et avoir cette information dans le débat public. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée de la méthodologie qu'il faut pour essayer d'avoir des estimations des dépenses militaires en France ?
Ce n'est pas un économiste qui va vous démentir sur le fait que nous avons besoin d'avoir des données statistiques. Officiellement, ces données statistiques, elles existent sur les dépenses militaires. Elles sont en général transférées par les ministères, les gouvernements, les ministères de la Défense, et elles sont centralisées dans les départements économiques, par exemple de l'ONU ou de la Banque mondiale. Donc, première approche, on a une idée du montant des dépenses militaires. Il y a toutefois, deux types de problèmes, deux types principaux de problèmes qui se posent à propos de la mesure de ces dépenses militaires. D'abord, il y a les problèmes qui sont généraux à tout calcul économique, qui sont par exemple ceux des comparaisons internationales. Dans quelle monnaie on peut comparer les activités des pays? Et on sait que ça joue beaucoup puisque les taux de change entre les monnaies, les valeurs entre les monnaies évoluent en permanence. Et si le dollar se met à perdre 10% par rapport à l'euro, on va avoir l'impression que les dépenses militaires américaines ont baissé de 10%. Je prends un exemple caricatural américano-européen, mais pensez à tous les pays d'Afrique ou les pays les moins développés qui, eux, voient leur monnaie se dévaluer et donc voient inévitablement la mesure de leurs dépenses militaires être profondément altérée, profondément modifiée. Il y a aussi les problèmes d'inflation pour la mesure dans le temps. Donc, comparaison dans l'espace entre les pays assez difficile pour les raisons que je viens de dire, et comparaison dans le temps assez difficile parce qu'il y a tous les problèmes qui sont liés à l'inflation. Ces problèmes sont généraux, ils ne sont pas propres à la défense, mais il y a, je crois, dans la défense, des problèmes plus compliqués. Vous avez souligné ceux qui sont évidents, ceux qui sont liés à l'opacité, au secret, même si normalement les budgets de défense doivent être connus. Donc, je pense qu'on a beaucoup de mal à connaître les véritables budgets de défense, les budgets militaires, moins peut-être pour les pays les plus développés qui ont les comptabilités nationales les plus sophistiquées, mais en tout cas pour une large partie de la planète, ces données sont très difficiles à avoir et sont estimées. Le CIPRI, par exemple, a modifié ses données chinoises parce que seulement depuis quelques années, la Chine vient de donner des publications sur ces entreprises de défense chinoises et le CIPRI les a reprises. Donc, vous voyez que les ONG en général, voire les chercheurs, sont assez tributaires du bon vouloir des organisations gouvernementales.
J'interviens juste pour expliquer que le CIPRI, c'est le Stockholm International Peace Research Institute.
Absolument. Le CIPRI est une référence en matière de données militaires, de données économiques militaires. Mais je voudrais mettre l'accent sur une autre dimension de la difficulté de connaissance des dépenses militaires. C'est que depuis les années 90, mais surtout depuis 2001, les agendas géopolitiques des grands États se sont profondément modifiés avec une conjonction et une confusion, je devrais dire, de plus en plus grande entre ce qui procède du militaire et ce qui procède de la sécurité. Confusion entre les ennemis de l'extérieur, censés être traités par des questions militaires, et les ennemis de l'intérieur, censés être traités par des solutions de sécurité. Confusion des instruments pour maintenir l'ordre militaire ou l'ordre sécuritaire. On voit les mêmes produits et les mêmes systèmes être utilisés à des fins militaires ou à des fins civiles, donc à des fins sécuritaires. Tous les instruments de surveillance, voire de répression légère, non létale, comme osent dire les gouvernements. Donc, on voit une confusion de plus en plus grande entre le militaire et le sécuritaire. C'est quelque chose auquel je suis très, très, très sensible dans ma recherche. Et il est évident qu'à partir de là, les difficultés de connaître les dépenses militaires augmentent, puisque précisément, une partie des dépenses militaires devient maintenant noyée dans des dépenses civiles qui vont être inscrites, par exemple, en France, dans le cadre du budget du ministère de l'Intérieur, enfin, qui s'appelle d'ailleurs ministère des Sécurités maintenant. Le budget des Sécurités, c'est comme ça qu'il s'intitule. Donc, aux difficultés méthodologiques, statistiques traditionnelles s'ajoutent celles de la confidentialité, du secret et de l'opacité, et s'ajoutent en plus maintenant les conséquences des choix en matière de stratégie choisis par les grands gouvernements qui consistent à confondre militaire et sécurité, et à partir de là, vous avez de plus en plus de mal à savoir ce qui procède du militaire et du sécuritaire. Vous pouvez bien sûr additionner les budgets des ministères de l'Intérieur, par exemple en France, et du budget militaire. Ça vous donnera une idée de ce que moi j'appellerais les dépenses militaro-sécuritaires. Je l'ai fait pour les effectifs, je ne l'ai pas fait autrement, mais je l'ai fait pour les effectifs. Et en 2021, j'ai abouti à la conclusion en France qu'il y avait 1,2, si j'ose dire, personnel de l'éducation pour un personnel militaro-sécuritaire, c'est-à-dire soldats, gendarmes, policiers et sécurité privée. Donc, ça vous donne une idée de l'importance des dépenses qui ne sont pas comptées comme dépenses militaires, mais qui devraient l'être, ou en tout cas être rattachées à ce que j'appelle, moi, les dépenses militaro-sécuritaires. Il faut les distinguer, bien entendu, c'est nécessaire, mais il faut ensuite, sous un certain angle, les réunir dans l'analyse que l'on fait des situations.
Super intéressant, merci. Et c'est intéressant que vous abordez l'emploi aussi par rapport à notre recherche sur l'emploi dans l'industrie de l'armement. C'est presque impossible de séparer ce qui est civil et militaire du coup avec toute l'industrie de l'aéronautique par exemple. Donc oui, c'est des problèmes dans beaucoup d'enjeux comme ça. Donc je voulais vous poser la question par rapport à l'enjeu de ces dépenses. Quel est l'enjeu de ces dépenses et pourquoi elles ne sont pas débattues publiquement en France ?
La France représente, j'allais dire malheureusement, parmi les pays occidentaux, effectivement un cas extrême. Ce n'est pas un cas unique parce que le débat sur les dépenses militaires est très difficile dans les autres pays démocratiques ou occidentaux, mais en France, les obstacles sont vraiment quasi insurmontables, ou en tout cas très difficiles à surmonter. Alors en France, si je prends l'exemple de la France en particulier, c'est clair que l'omniprésence de l'État depuis des siècles et l'omniprésence de l'armée au sein de l'État également depuis des siècles complique singulièrement la chose. Enfin, il y a une sorte de consensus qui s'est établi pour exclure la représentation démocratique. En général, elle passe par la représentation parlementaire, c'est du moins ce qu'on a appris depuis Montesquieu, pour exclure la représentation parlementaire du contrôle des dépenses d'armement, aussi bien d'ailleurs du budget et de son application, que encore plus, j'allais dire, des ventes d'armes de la France au reste du monde. Donc je pense que les difficultés, si elles sont générales à tous les pays, sont quand même aggravées en France par le système politique, je veux dire au sens étroit du terme, le système presque constitutionnel, la Ve République, telle qu'elle fonctionne. Bien sûr, la Constitution ne suffirait pas s'il n'y avait pas un consensus au sein des partis politiques entre les partis parlementaires de la droite et de la gauche, je devrais dire aujourd'hui de l'extrême droite, hein, bien sûr, en plus, pour ne pas aborder ces questions de contrôle. Donc, il y a derrière les institutions de la Ve République un accord des partis qui en ont été, qui en sont encore aujourd'hui les partis majoritaires et qui rend la tâche extrêmement difficile, pour ne pas dire décourageante, à tous ceux qui essayent de se perdre dans le dédale des dépenses militaires. Les dépenses militaires nourrissent en France non seulement une activité militaire interventionniste à l'étranger extrêmement importante, mais nourrissent également une industrie d'armement extrêmement important, des intérêts économiques extrêmement importants qui, pour des raisons évidentes, vont s'opposer à tout effort de clarification de ces dépenses, qu'elles soient à l'intérieur ou qu'elles soient consacrées aux exportations d'armes.
Merci. Je pense que c'est un sujet très important que vous avez abordé par rapport au système politique français qui a créé un espèce de consensus sur cette question. Moi, je me demandais aussi qu'est-ce qui explique que dans d'autres pays en Europe, il y ait des partis de gauche qui soient avec des traditions antimilitaristes ou des partis qui se saisissent de cette question pour mobiliser, alors qu'en France, on a un pays avec une culture quand même de la manifestation où chaque sujet trouve finalement un public pour mobiliser. On n'a pas autant de mobilisation par les partis d'extrême gauche ou de gauche, de la gauche, sachant qu'il y a toujours une espèce de consensus autour de cette volonté de souveraineté nationale qui doit passer par l'armée sans avoir d'autres alternatives de présenter. Est-ce que ça, c'est une spécificité seulement française ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir autre part qui est lié à une partie de la culture politique ?
La France n'a pas toujours été dans la situation que vous décrivez aujourd'hui et avec laquelle je suis d'accord. Si vous prenez le début du XXe siècle, le mouvement ouvrier syndical était pratiquement spontanément, j'allais dire, antimilitariste. Alors, il faut dire que l'armée était constamment requise pour empêcher les grèves de se dérouler, pour empêcher les occupations d'usines d'avoir lieu. Donc, l'antimilitarisme n'était pas simplement l'antimilitarisme vis-à-vis de l'intervention à l'extérieur, mais aussi contre l'intervention de l'armée dans les conflits sociaux. Mais il y avait cette très forte tradition antimilitariste. Il est vrai, c'est le constat que vous faites, je le partage, il est vrai qu'au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sentiment antimilitariste, qui était quand même largement partagé, non seulement, je le disais, par une majorité de salariés, mais également par les partis politiques qui prétendaient les représenter, il est vrai que cette tradition s'est fortement estompée. Alors il y a, je crois, des causes diverses. Hein, celles que j'ai mentionnées précédemment sont très importantes. Le fait que l'État et l'armée jouent un tel rôle en France tend à inhiber les protestations, à rendre plus timides et plus réticents tous ceux qui voudraient élever la voix. Vous pouvez voir dans les événements récents qui se passent en France, cette sorte de front du silence qui est organisé autour, par exemple, de la police. Alors, la police n'est pas l'armée, hein, et il faut la distinguer. Mais je prends cet exemple parce que pour des jeunes qui ne sont pas toujours versés vers le passé, la façon dont aujourd'hui, par exemple, les tentatives d'étouffer toute tentative de critique du comportement de la police aujourd'hui sont organisées. Ça, par contre, je pense que beaucoup de jeunes y sont sensibles et je pense que ça peut nous donner une petite idée, si vous voulez, des raisons encore plus profondes pour lesquelles il est difficile de critiquer l'institution militaire en France. Il y a d'abord cette raison, peut-être ce poison, en tout cas cette raison nationaliste qui fait que le nationalisme, le chauvinisme, donc la xénophobie est l'ennemi de l'autre, sont utilisés pour continuer à défendre des intérêts en France. Hein, c'est une vieille tradition qui n'est pas française, hein, d'utiliser le nationalisme à des fins intérieures, à des fins de domination intérieure. Donc la France, pour la France, et là je rejoins un peu votre question, pour la France c'est encore plus fort parce que pour un Italien, encore plus pour un Allemand, pour un Belge, ou un néerlandais, l'utilisation de l'intérêt national à l'étranger représenté par les armées nationales n'a, vous le comprenez, pas la même vigueur qu'elle a en France. Il est évident que les Italiens, il faut presque les en féliciter, ne sont pas aujourd'hui mus par l'idée qu'ils ont une mission civilisatrice à accomplir de par le monde. Or, malgré tout ce qui est dit, C'est encore le cas de la France lorsque la France intervient de façon systématique, hein, plus de 110 fois, 110 interventions militaires dans les 40 dernières années, c'est bien au nom du fait qu'elle est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, qu'elle est là pour le bien et pour la défense de la civilisation humaine. Donc, c'est un premier obstacle, si vous voulez. Le nationalisme en France est exacerbé, en quelque sorte, par le statut international que la France ou que ses dirigeants prétendent continuer à maintenir. Et puis, il y a une autre raison que j'ai mentionnée précédemment, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids énorme aujourd'hui, les enjeux sociaux énormes représentés par l'industrie d'armement, à la fois pour la compétitivité de l'industrie française en général, donc pour les grands groupes français qui, tiens, par hasard, sont aussi souvent détenteurs de grands médias nationaux, mais aussi des intérêts sociaux pour tous ceux qui, salariés, vivent de leur emploi et finalement sont contraints de travailler dans des industries d'armement, productrices d'engins de destruction. Ils ne l'ont pas fait par choix idéologique, ils l'ont fait évidemment parce que dans cette société, c'est le seul moyen de pouvoir maintenir une vie, soit individuelle, soit familiale, que de trouver un emploi. Et si vous avez des emplois dans l'armement, eh bien, vous êtes contraint, il n'y a aucun jugement moral à avoir là-dessus, vous êtes contraint d'aller travailler dans des usines d'armement. Donc, la conjonction, si vous voulez, du statut international de la France et, disons, du nationalisme qu'elle provoque, de l'union sacrée, pour reprendre un terme un peu plus ancien, qu'elle provoque d'une part, et d'autre part, le poids énorme des intérêts économiques et sociaux qui sont liés à l'armement aujourd'hui, sont sans doute deux grands obstacles qui, réunis ensemble, font beaucoup pour s'opposer à toute réflexion approfondie.
Merci. J'en profite aussi pour rebondir sur cet argument de l'industrie de l'armement, puisqu'on a établi que les dépenses militaires étaient toujours en hausse et c'est une hausse constante malgré une exception dans les années 90. C'est vrai que cette année, on a vu que du coup, c'était toujours en hausse, malgré l'année 2020 qui a été quand même marquée par la pandémie. Et le fait qu'on ait vu dans d'autres pays, je pense à la Corée du Sud par exemple, qui avait annoncé au début de la crise qu'ils allaient réduire leurs investissements, en tout cas dans la défense, pour privilégier plus d'investissements dans la santé. En France, ça n'a pas été le cas. Ou en tout cas, ça n'a pas été les mêmes annonces, ça n'a pas été la même communication. Je pense notamment aux Ségur de la santé qui ont permis de débloquer 8 milliards cet été. Et au même moment, il y avait des discussions autour du nouveau porte-avions qui serait décidé par Emmanuel Macron, qui est à peu près estimé au même coût, donc à 7-8 milliards, puisque finalement, il a opté pour une propulsion nucléaire. Donc, quand on voit ces priorités budgétaires et qu'on voit que le contexte sécuritaire a changé, puisqu'il y avait une nouvelle menace à ce moment-là qui était la pandémie, et ça n'a pas été, y a pas eu de réponse avec des investissements massifs dans la santé, mais il y a toujours eu le même niveau d'investissement dans la défense. Est-ce que l'argument de l'industrie et de l'économie est maintenant plus important même que l'argument sécuritaire ? Qu'est-ce qui permet au gouvernement finalement de justifier un niveau aussi élevé de dépenses militaires après une année sociale qui a quand même été assez catastrophique sur de nombreux aspects, dont la santé ?
La loi de programmation militaire, donc 2019-2025, a décidé d'augmenter les dépenses d'équipement militaire, donc de matériel militaire pour aller vite, de 50%. 50% en valeur réelle, c'est-à-dire indépendamment de l'augmentation des prix. Donc 50% en valeur réelle. Donc vous voyez que la tendance n'est pas près de s'achever, puisque probablement au cours des prochaines élections présidentielles, le débat ne portera pas sur le fait qu'il faut réduire les dépenses militaires pour sortir la France de la situation économique et sociale, parce que cette loi de programmation militaire rencontre un très large consensus. Elle a été votée d'ailleurs à une très large majorité en 2018. La substitution du Conseil de défense au Conseil des ministres, que le président de la République a systématiquement pratiqué depuis un an, indique qu'il n'y a, de ce point de vue non plus, pas lieu d'attendre une modification de la trajectoire des dépenses militaires. Je le rappelle, hein, les dépenses militaires en France ont, depuis 2009, augmenté bien plus que n'ont augmenté les dépenses à finalité économique et sociale. Donc, c'est vraiment une tendance maintenant qui devient longue et qui va continuer, puisque je vous dis que ça durera au moins jusqu'à 2025. Et je ne parle ici que des dépenses militaires. J'ai expliqué pourquoi les dépenses de sécurité devaient de plus en plus être accolées aux dépenses militaires. Donc, effectivement, la tendance, à moins d'aversion massive, mais il faudrait également une prise de conscience massive de la population, il n'y a pas lieu d'attendre que la tendance longue, maintenant, depuis la fin des années 2000, va changer en France. Alors, on peut s'interroger effectivement sur la continuation d'une tendance qui, sur le plan de la compétitivité, pardonnez-moi du mot économique, je vais l'expliquer dans un instant, qui, sur le plan de la compétitivité de l'industrie civile, s'est traduite par un désastre. J'ai documenté beaucoup dans ces deux dernières années, bien plus longtemps, mais disons au moins depuis ces deux dernières années, comment la priorité donnée à l'industrie d'armement et aux exportations d'armes s'était accompagnée d'un délitement de l'industrie manufacturière française dans des secteurs aussi importants que le secteur des télécommunications, le secteur de la machine-outil ou le secteur des composants électroniques. On n'arrête pas de nous expliquer que l'industrie d'armement, pour reprendre le terme du ministre Le Drian, irrigue l'industrie civile. On voit les arguments sur les retombées positives de l'industrie d'armement sur l'industrie civile partout, je veux dire partout dans les discours du gouvernement, mais nulle part dans les statistiques du commerce international de la France. C'est exactement le contraire qui se passe. Plus on augmente les dépenses militaires, plus on privilégie les dépenses de recherche et développement à finalité militaire, plus on privilégie les stratégies d'exportation d'armes qui ont augmenté de plus 44% entre 2016 et 2020, et plus on délite, plus on démembre le système industriel français au prix de sa perte de compétitivité, c'est-à-dire de la perte de position des entreprises françaises sur les marchés mondiaux. Le déficit commercial de la France, la différence entre ce qu'elle vend comme bien et ce qu'elle achète, est non seulement croissant depuis maintenant une dizaine d'années, mais il est principalement orienté, ce déficit, avec nos partenaires européens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans le déficit commercial de la France, par exemple, des coûts salariaux français qui seraient excessifs par rapport à ceux du Bangladesh ou du Vietnam. Il ne faut pas chercher dans le déficit commercial civil, manufacturier, industriel de la France, le fait que ça serait la Chine qui serait responsable. Le principal déficit que nous avons, c'est avec l'Allemagne, et le total cumulé du déficit commercial que nous avons avec l'Europe est bien plus important que le déficit commercial que nous avons avec tous les pays émergents et les pays en voie de développement de la planète. Donc, il y a une bifurcation, ce que j'ai appelé un effet de ciseau ouvert depuis quelques années, entre d'une part la prospérité de l'industrie d'armement, prospérité si on peut dire bien sûr, hein, et au contraire le déclin des performances de l'industrie civile française sur les marchés mondiaux. Et je le répète, déclin des industries civiles, y compris dans les secteurs, à l'exception de l'aéronautique, y compris dans les secteurs qui sont censés être liés à l'industrie d'armement. J'ai cité la machine-outil, les composants électroniques ou les télécommunications. Donc, je pense que l'acharnement qui est aujourd'hui mis à privilégier cette stratégie industrielle, cette politique industrielle fondée sur l'industrie d'armement et sur les quelques grands groupes qui la contrôlent en France, est une stratégie absolument suicidaire. Enfin, elle est une des causes, ce n'est pas la seule, mais elle est une des causes du déclin de l'industrie manufacturière civile en France, et elle va continuer parce que les intérêts qui sont aujourd'hui en jeu sont tels qu'on ne va pas essayer de toucher à l'industrie d'armement, à l'industrie aéronautique. Et aucun gouvernement n'a aujourd'hui le courage, disons, de remettre à plat, entre guillemets, hein, ces questions. J'ajoute, pour terminer, que je n'ai pas mentionné l'industrie nucléaire, mais le raisonnement que j'ai fait pour l'industrie d'armement vaut encore plus pour l'industrie nucléaire. L'obstination des gouvernements successifs à privilégier l'industrie nucléaire se traduit aujourd'hui par un désastre, si vous voulez, écologique, bien sûr, social aussi, avec la disparition du fleuron qui était Areva, mais aussi une absence totale d'exportation de centrales nucléaires dans le monde.
Un autre sujet qu'on va pouvoir vous demander de nous expliquer, qui est la vente des Rafales à l'Égypte, sous couvert du coup de lutte antiterroriste. On voulait vous demander si vous pouviez expliquer les conditions de cette vente, et notamment le fait que l'Égypte s'est endettée pour acheter 30 Rafales, et les missiles qui vont avec, et la maintenance, etc. Et qu'ils ont obtenu un prêt qui est garanti à hauteur de 85% par le Trésor public français. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est une pratique qui est souvent utilisée dans les ventes d'armes avec la France?
C'est une pratique qui est systématiquement celle de la France. L'exemple le plus saillant, on l'avait documenté dans un livre avec mon ami François Chénet en 1992, l'exemple le plus saillant, ça a été les ventes d'armes massives à l'Irak, à notre ami Saddam, dans les années 80 pour financer sa guerre contre l'Iran. Et plus on vendait à Saddam Hussein et plus on se félicitait de vendre. Certains, présents Chirac en particulier, avaient même essayé de vendre une centrale nucléaire à Saddam Hussein. Hein. Et on s'est aperçu en 1991, après la guerre du Golfe, bien sûr, que Saddam a dit qu'il n'avait aucune raison de rembourser un pays qui l'avait agressé puisque la France avait participé à la coalition menée par les États-Unis. Et donc, c'est le contribuable français qui a été invité à payer, disons, cette vente non acquittée par le régime irakien, qui avait été, là aussi, financée à l'époque par la COFAS, la banque assurance des exportations françaises. La législation de la COFAS a un peu changé, mais le fond reste le même. La France s'est toujours évertuée à vendre des armes. Hein. C'est en 1969, il y a plus de 50 ans, que le délégué général à l'armement expliquait que l'industrie d'armement française était construite pour vendre un tiers de sa production. Grâce au roi d'Arabie, on a dépassé ce tiers, mais c'est à peu près ce pourcentage qu'on retrouve maintenant depuis 60 ans. Encore une fois, avec des variations, hein, là, pour l'instant, c'est une période plus qu'euphorique pour les ventes d'armes, mais en général, c'est autour d'un tiers. Donc, c'est structurellement, si vous voulez, que les ventes d'armes ont été intégrées dans la production d'armes. Disons, c'est devenu une composante structurelle de l'industrie d'armement française. Et évidemment, il faut trouver des acheteurs. Donc, la France ne s'est jamais embarrassée, d'où l'absence de contrôle sur les exportations d'armement, la France ne s'est jamais embarrassée de considérations éthiques, c'est évident. Enfin, aujourd'hui, même le plus jeune de vos auditeurs peut le constater avec le Yémen, mais aussi de considérations économiques, c'est-à-dire que parfois, on est passé par-dessus la tête de Bercy, enfin, du ministère des Finances à l'époque, il n'était pas encore à Bercy, pour pouvoir vendre des armes à certains pays qui étaient notoirement faillis. Eh bien, c'est finalement la même chose qui continue, pas de considération sur le plan éthique, pas de considération sur le plan politique, pas de considération sur le plan économique, parce qu'il faut vendre 30 rafales qui priment sur toutes les considérations que je viens de décrire. Concrètement, effectivement, il n'y a pas à tourner autour du pot. L'Égypte est un pays ultra endetté, en réalité failli, bien sûr, incapable de rembourser sa dette, tout juste capable d'assurer le paiement de petits intérêts aux créanciers pour faire marcher les marchés financiers. Mais là, l'Égypte est bien sûr, comme des dizaines d'autres pays, insolvable et incapable de rembourser sa dette. Donc, effectivement, pour que l'opération soit validée sur le plan, j'allais dire, juridique, sur le plan politique, bien sûr, mais même sur le plan juridique, il faut que la France, enfin, il faut qu'un organisme se porte caution de l'Égypte. Et évidemment, comme aucun organisme bancaire privé ne serait prêt à se porter caution de l'Égypte dans son remboursement des ventes d'armes, évidemment, il y a par contre ce bon cheval de bataille qui est l'État français qui, lui, veut bien garantir, cautionner à 85%, comme vous dites, cette vente d'armes. Donc, la situation, elle est comme vous l'avez décrite, quoi, je veux dire. Il ne faut pas chercher de méandres souterrains. C'est celle d'un pays failli qui refuse et réprime avec une férocité incroyable les droits de l'homme, à qui on vend des armes qu'il peut éventuellement utiliser contre sa propre population ou contre des populations limitrophes. Et on peut tout au plus, c'est ce que j'essayais de faire, mettre dans une perspective historique cette continuité du comportement français en matière de vente d'armes.
Merci. Oui, ça souligne d'autant plus l'intérêt d'un contrôle post-vente, comme ce que vous avez fait avec les ventes à l'Irak, d'avoir au moins quelqu'un ou une organisation ou quelque chose qui puisse voir quel a été l'après, si vraiment l'intérêt économique était présent ou pas. Donc, ça sera intéressant de voir dans 10 ans ce qui s'est passé avec ce prêt, avec l'Égypte. Toute cette discussion, ça nous fait nous poser la question, est-ce que ces dépenses militaires, finalement, permettent de garantir la sécurité ou contribuent en tout cas à garantir une sécurité?
Oui, il y a sans doute un des proverbes les plus mensongers de l'histoire, ça remonte à Rome, vous voyez, et Rome était bien caractérisé par un militarisme très fort, qui dit que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. C'est évidemment un proverbe totalement mensonger. Encore une fois, il n'est pas nouveau, hein, il date de Rome, mais il a été détrompé en permanence par toute la réalité historique. Les pays ne s'arment pas pour se défendre contre d'autres agresseurs, puisque les autres pays se défendent eux-mêmes en disant que ces pays qui prétendent se défendre contre des agresseurs sont eux-mêmes agresseurs, etc., etc. Donc en fait, pour ce qui concerne en tout cas les grandes puissances, et comme je vous l'ai dit dans les premières questions, il est clair que puissance économique et puissance militaire vont de pair. Et encore une fois, je le répète, elles iront et elles vont déjà de plus en plus de pair depuis maintenant quelques années. Donc, la puissance militaire est incontestablement mise au service d'ambitions économiques et géopolitiques. Donc, c'est une première raison pour laquelle les dépenses militaires non seulement ne contribuent pas à la sécurité et à la paix, mais sont au contraire, par définition, c'est même leur objet, des facteurs de guerre. Je pourrais sur ce plan prendre l'exemple des conflits entre la France et la Turquie. On nous les présente justement comme un conflit qui serait celui d'un président audacieux et jeune, attaché aux droits de l'homme contre un dictateur autoritaire et militariste. Quand on creuse un peu, il n'y a vraiment pas besoin de creuser beaucoup, hein. Il suffit vraiment de prendre ce qui tombe sous la main. On s'aperçoit en fait que les rivalités entre la France et la Turquie sont des bonnes vieilles rivalités géopolitiques ou géoéconomiques. Total est présent en Jordanie avec des groupes israéliens et saoudiens dans le forage du pétrole que revendique aussi justement en mer Méditerranée la Turquie. La Turquie est présente en Libye où on sait que le chaos qui existe aujourd'hui a quand même largement été provoqué par la décision de Sarkozy de mener la guerre en 2011. La Turquie, comme c'est une puissance montante et ambitieuse, est désormais présente dans les terres conquises par la France, ce que certains ont appelé la France-Afrique. Elle est en particulier très présente au Sénégal. Enfin, si vous prenez tout l'arc qui part de la Méditerranée pour aller en Libye et dans le Sahel, vous voyez en réalité qu'on voit là un conflit classiquement inter-impérialiste, pour reprendre un terme que je revendique, hein. Donc, si vous voulez, les ambitions militaires de la prochaine loi de programmation militaire, les déclarations des militaires français aujourd'hui disant qu'il faut de plus en plus s'armer pour se préparer à ce qu'ils appellent des conflits de haute intensité, hein, c'est le langage qui est utilisé aujourd'hui pour désigner en réalité les dangers représentés par la Chine ou par la Turquie en Europe, préparent directement, disons, la guerre. Si, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Je dois dire que là, l'existence de l'Europe, sur ce point-là, semble être positive pour freiner les ardeurs bellicistes du gouvernement français. Mais il y a une autre raison pour laquelle les dépenses militaires ne contribuent pas à la paix, c'est que les dépenses militaires nourrissent des intérêts économiques, politiques bien sûr, mais économiques bien précis, hein. Ce n'est pas moi, et je ne reprends d'ailleurs pas sous cette forme à mon compte, qui ai créé le terme de complexe militaro-industriel. C'est le président Eisenhower en 1961, quand il a quitté ses fonctions de président des États-Unis, qui a mis en garde ses fellow citizens, ses compatriotes américains, contre les dangers non désirés du complexe militaro-industriel. Ce sont à peu près ces paroles que je cite ici, hein. Donc, il est clair que les dépenses militaires ne contribuent pas à la paix, mais qu'elles nourrissent par contre de puissants intérêts économico-financiers qui, eux, ont tout intérêt, au contraire, à ce que ces dépenses militaires continuent à augmenter. Et sans être complotiste du tout, il n'y a malheureusement aucune raison de l'être, hein. D'autres raisons bien plus objectives incitent au pessimisme. Sans être complotiste, il est évident que, comme le disait d'ailleurs Serge Dassault en remerciant le ministre Le Drian, lorsque Le Drian était venu visiter l'usine de Rafale à Bordeaux, merci monsieur le ministre, et il y avait Hollande, pardon, merci monsieur le président pour tout ce que vous avez fait pour nous, et il venait de parler de l'intervention française au Mali. Donc il n'y a pas besoin d'être du tout complotiste, il suffit même de citer monsieur Serge Dassault pour comprendre que par définition, un marchand d'armes, c'est fait pour vendre des armes, et que pour vendre des armes, eh ben, il faut qu'il y ait des clients, et pour qu'il y ait des clients, il faut aussi, pas seulement heureusement, mais il faut aussi qu'il y ait des guerres.
Merci. La dernière question que j'allais vous poser, c'est peut-être une question un peu vague et idéaliste, mais c'était la question de comment on peut imaginer une meilleure société, une meilleure sécurité des individus qui ne dépendent pas autant sur les dépenses militaires.
La sécurité, qui est un mot évidemment aujourd'hui plus qu'utilisé, trop utilisé, elle renvoie d'abord à la sécurité qui est celle du droit de vivre. Hein, je pense actuellement, par exemple, hein, aux Palestiniens, mais aussi à des centaines de millions d'autres personnes dans le monde, et dans les pays riches, entre guillemets, dans les pays développés, d'avoir un travail, de pouvoir vivre dignement. On sait que le fondement de la coexistence pacifique au sein des populations et entre les populations, c'est d'abord le fait de pouvoir vivre et travailler dignement. Donc, je pense que tous les agendas qui, depuis ceux de l'ONU, dans les années 90, ont développé la notion de sécurité humaine, mettent l'accent précisément sur ces alternatives. Et on peut qu'abonder dans ce sens. C'est clair que la sécurité humaine, si on la prend au mot, exige d'en finir avec la sécurité militaire telle que nous en avons discuté là. Je pense vraiment que ce sont des programmes alternatifs de choix économiques et sociaux qui doivent d'abord être faits, hein, et ça, on n'en est pas toujours maître, hein, mais c'est clair que les lendemains de la pandémie risquent d'être encore plus difficiles pour les salariés, pour les jeunes, pour les chômeurs, bien sûr, que ne l'était leur situation avant la pandémie. Et je parle ici que des pays riches que je connais, hein, donc je vous laisse imaginer dans les pays pauvres. Donc c'est vraiment un programme citoyen, si vous voulez, économique et social, dans lequel la question du militaire et de la sécurité sont intégrées, qu'il s'agit de bâtir. Hein. C'est un peu la même réponse que je faisais il y a quelque temps à la question posée précédemment. C'est vraiment des choix citoyens là qui permettront d'imposer une alternative au cours extrêmement dangereux et pour des raisons que je ne peux pas développer ici, peut-être encore plus dangereux en France. Pour le dire vite, je pense que ce qui se passe depuis maintenant quelques années en France témoigne que la France est le maillon faible des pays démocratiques en Europe. Je pense que pour inverser ce cours, il faut reconstruire un programme qui s'appuie sur les besoins citoyens des populations.
Merci beaucoup. Oui, je suis totalement d'accord. Et ça va être un gros travail. À Stop Feeling War, on veut vraiment changer le discours autour de la sécurité et vraiment élargir cette définition pour que sécurité ne veuille pas dire exactement militaire ou policière ou quoi que ce soit plus la sécurité humaine, les besoins, les libertés fondamentales et tout ça qu'on voit en ce moment sont en dégradation.
Je pense que les mouvements qui ont lieu, et en particulier qui viennent beaucoup de la jeunesse, essentiellement de la jeunesse, qui ont lieu sur les questions du changement climatique et plus généralement des questions environnementales, pour moi, sont vraiment une source d'espérance, non pas sur l'environnement, bien sûr, je suis attaché, comme tout le monde, à la défense de l'environnement, mais parce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise comme aspiration, et premièrement, et comme capacité de mobilisation, deuxièmement. C'est-à-dire que, et même sur la façon qu'il y aurait pour les économistes de défendre un point de vue que j'ai toujours défendu, mais qui est minoritaire, malheureusement, parmi les économistes en ce qui concerne l'armement, que les dépenses d'armement ne sont pas des dépenses d'entraînement de l'économie, hein, qui entraîneraient la croissance économique, l'emploi, etc., mais au contraire, même sur le plan économique, je veux parler, sur le plan strictement économique, des dépenses de destruction des richesses. Cette thèse que j'ai toujours défendue, en fait, elle est défendue presque maintenant naturellement, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'elle est imposée dans la réalité, malheureusement, mais qu'elle est elle s'est imposée presque naturellement du point de vue de la théorie, enfin, presque tout le monde reconnaîtra qu'aujourd'hui, le gaspillage, la surabondance d'utilisation des matières premières, c'est une destruction des richesses. Enfin, il n'y a pratiquement pas de discussion, je dirais même, y compris chez les économistes. Et en ce sens, aussi bien sur le plan de la mobilisation telle qu'elle s'opère dans la jeunesse de la planète sur les questions d'environnement que sur les aspects théoriques que je viens de brièvement d'évoquer, je pense que pas mal de choses peuvent s'inspirer de ce qui se passe dans la mobilisation sur l'environnement pour être, non pas dupliquées, mais en tout cas transférer comme leçon vers les questions militaro-sécuritaires.
Merci beaucoup. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié partager cette discussion avec vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Repensons la paix et la sécurité. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif. Stop Feeling War vous invite à venir voir notre exposition « Sans armes, citoyens et citoyennes » sur la sécurité et la militarisation à Paris, à la Botica, entre les dates du 7 octobre et du 10 octobre. Venez découvrir comment la militarisation, les dépenses militaires et bien plus encore vous impactent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @StopFeelingWar, STOPFUELINGWAR, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci, au revoir.